Chapitre 2. La révélation. C'est arrivé alors qu'Hélénos et toi n'aviez pas encore fêté vos 4 ans, raconte le roi. Un jour d'été semblable à celui-ci, vous jouiez tranquillement dans le bosquet sacré d'Apollon, gardé par votre nourrice Parthéna. Sans doute était-elle fatiguée par la chaleur ou peut-être avait-elle bu un peu trop de vin doux. Toujours est-il qu'elle s'assoupit. Tandis qu'elle dormait, les serpents sacrés du temple sortirent de leurs repères et doucement, sans un bruit, ondulèrent jusqu'à vous. Vous n'aviez aucune raison de redouter les serpents sacrés. Peut-être même avez-vous trouvé amusant de les voir se dresser près de vous, leurs fines têtes se balançant mollement dans l'air chaud. Et lorsque, de leur langue fine et glacée, ils vous léchèrent les oreilles, je vous imagine riant aux éclats parce que cela vous chatouillait. C'est à ce moment que votre mère survint. Elle claqua fortement dans ses mains pour chasser les reptiles, mais il était trop tard. « Comprends-tu ce que cela signifie, Cassandre ?» Priam n'attend pas vraiment de réponse. Il sait que sa fille a compris. L'univers des dieux lui est familier. Et d'ailleurs, qui à Troie ne vénère Apollon, dieu du soleil et de l'intelligence, de la musique, de la poésie? Nul n'ignore que les serpents sacrés qui gardent son temple ont le pouvoir de donner aux simples humains le don de prophétie. « C'est donc cela ?» murmure la jeune fille sous le choc de cette révélation. La voilà enfin l'explication des images incongrues et souvent violentes qui lui apparaissent parfois brutalement, la surprenant au milieu de ses occupations quotidiennes. « Oui, poursuit son père, c'est ce don qui te rend différente des autres. C'est à cause de lui que ta mère n'ose pas te serrer contre son cœur comme nos autres enfants. Hélénos et toi n'êtes pas des adolescents ordinaires. Probablement vos frères et sœurs le pressentent-ils confusément, ce qui les met parfois mal à l'aise. Pourtant, Hélénos, lui, ils ne le tiennent pas à l'écart. Je suppose que c'est parce qu'il est un garçon. Une fille qui en sait trop peut avoir quelque chose d'inquiétant. « Je suis donc bien votre fille ?» demande Cassandre, revenant à la question qui l'a si longtemps obsédée. Mais maintenant, elle connaît la réponse. Son père vient de la libérer du fardeau qui lui empoisonnait la vie. Elle n'est pas une enfant abandonnée. Le sang de ses parents coule dans ses veines. Le roi sourit, la rassure, puis de nouveau, sérieux. « Pourquoi cette inquiétude tout à coup ? S'est-il donc passé quelque chose de particulier ce matin ?»« Pas vraiment, » répond Cassandre. « Enfin si, j'ai eu une vision qui m'a affreusement angoissée. Il faut que je vous la raconte, père. J'ai vu notre ville menacée par des hommes venus de la mer. Vous croyez les avoir chassés, mais ils surgissaient de nouveau des 4 coins de l'horizon, et j'avais la certitude que nous étions perdus. » Le roi ne peut s'empêcher d'être troublé. « Sa ville menacée ? Et si sa fille chérie disait vrai ?»« Sors net que tout cela !» Priam et Cassandre sursautent, se retournent. C'est Hécube qui vient de surgir derrière eux et proteste avec virulence. « Troie n'a rien à redouter à l'abri de ses remparts. Ne te laisse pas emporter par ton imagination, Cassandre. » « Il n'est pas question d'imagination, et vous le savez bien, » réplique la jeune fille. « J'ai vu la scène se dérouler devant moi avec autant de netteté que si... » Mais la reine refuse de l'écouter davantage. « Cela suffit. Maintenant laisse-nous, ton père et moi avons à parler. » Le regard brûlant d'humiliation... Cassandre quitte la pièce sans se retourner et ferme la porte avec force. Ses sandales claquent sur les dalles de pierre. Mais soudain, parvenue au bout du couloir, elle s'arrête net et rebrousse chemin à pas de loup. Comme lorsqu'elle était enfant, elle se penche pour coller son oreille contre le battant de la porte. « Je ne vous comprends pas, dit le roi. Pourquoi douter des visions de Cassandre alors que vous croyez au présage des rêves ? Qui vous dit que j'y crois ? Allons, avez-vous donc oublié ce qui s'est passé quand vous attendiez Paris ? La reine laisse échapper un petit cri avant de répondre. « Combien de fois devrais-je vous demander de ne plus jamais évoquer ce souvenir ? Après toutes ces années, il est toujours aussi douloureux. » Mais le roi se montre impitoyable. « C'est pourtant à cause d'un simple rêve que nous avons abandonné notre enfant dans la montagne, insiste-t-il. Parce que vous aviez rêvé que vous accouchiez d'une torche enflammée qui mettait le feu à toute la cité. Ce rêve, la vision de Cassandre, ne pensez-vous pas qu'il y a de quoi être préoccupé ? Certes, nos remparts sont imprenables. Pourtant, il m'arrive de redouter. » Le roi s'interrompt brutalement et Cassandre devine pourquoi. Sa mère s'est mise à pleurer. « Ne me parlez plus jamais de ce bébé, sanglote Hécube. Ne me parlez plus de présages ni de prémonitions. À cause d'un rêve, j'ai fait ce qu'aucune mère ne devrait jamais faire. J'ai privé un enfant de l'amour de ses parents. » La suite de ses paroles devient confuse, mais Cassandre en a assez entendu. Elle est bouleversée. Ainsi, ses parents dissimulent bien un secret. Elle ne s'était donc pas trompée. Sa seule erreur a été de croire que ce secret la concernait, elle. En réalité, il s'agit d'un autre enfant, d'un frère qu'elle n'a pas connu. d'un garçon que le roi et la reine ont éloigné pour toujours parce qu'ils étaient convaincus que sa présence à la cour serait néfaste. Elle comprend maintenant pourquoi sa mère est si souvent triste et lointaine. Elle est heureuse de ne pas être la cause de cette froideur. Mais elle est effrayée aussi par ce que son père lui a appris, effrayée par le destin qui l'attend. Si un simple rêve a fait le malheur de sa mère, jusqu'où la conduira le don de prophétie qu'Apollon lui a donné ?